Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe en 2013. Chen Tie et son épouse Liu Xi, tous deux citoyens chinois, suivent un traitement contre l'infertilité. Plusieurs embryons, obtenus par fécondation in vitro, ont été congelés. Lorsqu'ils sont emportés par un accident de voiture, leurs parents, désespérés de rester désormais sans descendance, se lancent dans une longue bataille juridique pour utiliser ces embryons. Leur parcours est d'autant plus ardu que la gestation pour autrui est interdite en Chine. Une fois obtenu l'accès aux embryons, ils se tournent alors vers le Laos où la GPA est légale. Mais aucune compagnie aérienne n'accepte de transporter la bouteille d'azote liquide de la taille d'un thermos qui contient le précieux embryon. Il est donc acheminé au Laos en voiture par les futurs grands-parents. Il est implanté avec succès dans l'utérus d'une mère de substitution qui revient accoucher en Chine. Et en décembre 2017, soit 4 ans après la mort de ses parents biologiques, naît Tian Tian, qui veut dire « gentil-gentil ». Il a le sourire de sa mère, mais il ressemble aussi à son père. L'histoire est abondamment commentée sur les réseaux sociaux chinois, où elle soulève un tollé de protestations. 40 ans après la naissance en Angleterre du premier bébé éprouvette, Louise Brown, en 1978, qui suscitait déjà l'indignation des autorités religieuses, les débats parlementaires et bioéthiques autour de la PMA et de la GPA ne vont pas manquer d'occuper notre automne et même notre hiver, puisque le président de la République française a promis une nouvelle loi. En attendant de nous y plonger, on essaie de voir comment ça se passe en vrai, en dehors de la loi, dans la réalité, en France, à la première personne. PMA hors la loi, c'est le nouveau podcast des Pieds sur Terre par Adila Benedjaïsou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Inspirez, retenez le souffle, concentrez-vous sur le but de nez, le but de la langue contre le palais, Mula Bandha. Expirez, concentrez-vous sur les ovaires, sur les deux ovaires en même temps. Ici, on va respirer seulement par la narine droite, notre narine de soleil. Inspirez cette fois avec la respiration de feu, Bastrika.
Ce que vous entendez là, c'est un cours de yoga des hormones. Comme son nom l'indique, c'est un yoga qui est censé activer les hormones féminines. Le cours est donc exclusivement fréquenté par des femmes qui ont des règles douloureuses, des femmes qui sont à l'âge de la ménopause et des femmes qui désirent tomber enceinte.
Inspirez, retenez le souffle, concentrez-vous sur le but de nez.
Si vous m'aviez invité dans ce cours il y a encore 2 mois, laissez-moi vous dire que je serais partie en courant. Pourtant, aujourd'hui, je suis là, à essayer d'inspirer par ma narine de soleil et visualiser mes ovaires. Et si je fais une chose qui me ressemble si peu, c'est que depuis quelque temps, j'ai une envie qui ne me ressemble pas du tout.
Expirez.
Je voudrais avoir un enfant.
Concentrez-vous sur l'ovaire à gauche, comme vous le regardiez.
Cette envie m'est venue très tard, sans doute trop tard. J'ai 43 ans et mon corps est probablement trop vieux pour enfanter. Je ne sais pas si vous vous souvenez des redoublants au collège qui dépassaient tout le monde en taille et restaient des gamins dans leur tête. Eh bien, c'est comme ça que je me sens, comme une redoublante de la vie. Bon. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques années, la médecine a développé un arsenal de nouvelles technologies pour aider les femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en France, ces technologies sont interdites aux couples de femmes et aux femmes célibataires, ce qui est malheureusement mon cas. Et puis, il y a d'autres techniques de procréation assistée qui sont interdites à tout le monde. La congélation d'ovocytes, la gestation pour autrui, les tests génétiques préimplantatoires. ça fait qu'on vit une période assez étrange où un nombre de plus en plus grand de personnes font des choses interdites par la loi sans que personne ne soit vraiment choqué. À part la manif pour tous, bien sûr. C'est un peu comme au début des années 70, où l'avortement était encore interdit alors qu'il était pratiqué dans tous les milieux. Évidemment, ce genre de situation crée une grande inégalité entre ceux qui ont les moyens financiers et le culot social pour violer la loi et les autres. Quand j'ai compris que si je faisais une PMA, je serais hors la loi, j'ai voulu comprendre ce que ça signifiait. Et j'ai décidé d'en faire une enquête. Je sais, certains d'entre vous m'ont déjà suivi dans une autre enquête qui concernait mes parents, et on ne peut pas dire que ça a été un succès.
La sensation de mort,
mais quand même, à mes yeux, ce n'était pas complètement un échec.
Sauf qu'on n'a jamais su la vérité.
C'est le même pari que je fais aujourd'hui en me lançant dans ce projet dont je ne connais pas l'issue. Que j'ai un enfant ou pas, ce que j'aurai appris en route me servira. Nous servira à tous, je l'espère. Comme dirait ma prof de yoga des hormones, ce qui compte, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Et bizarrement, ce qui me retient de m'engager sur ce chemin, ce n'est pas l'idée de violer la loi, mais une question cruciale. Que va dire ma mère ?
Alors Karen et Jérôme, l'enfant, ils ont laissé tomber ou ils continuent ?
Non, ils vont peut-être faire une procréation assistée.
Ça fait quel âge, Karen? Elle a le même
43.
Âge que toi?
43, ouais.
Elle est pas jeune, parce qu'avoir un gamin, c'est parce qu'il faut au moins 9 mois après, hein, entre le moment où elle commence et le moment où ça se réalise, des fois, il faut un an.
Bah oui, c'est ça. C'est...
Donc faire un gamin à 45 ans, le pauvre gamin, il va être... Bon, on vit plus longtemps aussi, c'est vrai, mais... Elle y tient vraiment, ce gamin? Non, mais moi, ça, je trouve... Là, pour le coup, je trouve ça un peu égoïste. Ça veut dire qu'on pense pas à l'avenir du gamin. Imagine qu'il y ait quoi que ce soit, que les parents disparaissent, le gamin il va se retrouver orphelin.
Et ben voilà, vous pouvez faire confiance à ma mère pour dire tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas, que je suis trop vieille et égoïste. En fait, même si je ne tiens pas compte de l'opinion des autres, une chose me retient. C'est l'idée de mettre au monde un enfant sans père. J'ai moi-même perdu mon père et le mystère qui a entouré sa mort m'a beaucoup accompagnée, au point que j'ai fait une enquête sur cette mort, cette fameuse enquête qui n'a jamais abouti. Alors, est-ce que j'ai le droit d'imposer à un enfant de naître sans père ? Et est-ce qu'il existe des manières différentes de vivre l'absence d'un père ?
Tu me montres tes photos de famille ? Tu veux bien ?
Alors, elle est belle ma maman.
Je suis allée poser ces questions à Émilie, qui a été fabriquée et a grandi sans
ça,
père.
Ça, il y a longtemps. Et ça, c'est pas des petits bonbons et des pailles avec de la poudre qui pique comme quand on était dans les années 80.
Ah oui, ça
c'est des pailles de sperme congelées sur le mur d'en face.
Émilie a 36 ans, elle est née 9 mois avant Amandine, le premier bébé conçu par fécondation in vitro en France. Mais alors qu'Amandine était une star, Émilie, qui a été conçue par insémination artificielle, est née dans la clandestinité, car elle est l'enfant de deux femmes.
Ça, c'est mes deux mamans.
Je n'ai aucun moyen de le prouver, mais je suis persuadée qu'Émilie est le premier bébé né d'une PMA hors la loi.
Est-ce que tu te souviens d'un moment où on t'a dit comment t'étais venue au monde ?
Oui, j'étais au collège et je crois que c'était dans les vacances, donc mes deux mamans et moi. Et ma mère m'a emmenée passer une journée, juste toutes les deux, dans un très joli petit village médiéval. Et puis elle m'a payé une crêpe, on s'est assise et elle m'a dit je suis un peu surprise, tu te demandes jamais d'où tu viens, ton histoire, comment t'as été conçue, tout ça. Et en fait, tout à coup, quand ma mère m'a proposé de me raconter mon histoire, j'ai fondu en larmes parce que ma seule angoisse a été de lui dire « Mais pourquoi ? C'est pas toi, ma maman !» Tout à coup, la seule chose qui m'angoissait, sur le coup, ça aurait été qu'elle me réponde qu'en fait... rien de tout ça n'était vrai, que c'était pas elle, ma maman, ou... C'était la seule chose qui aurait pu m'inquiéter, quoi.
Ouais.
Alors ce jour-là, ma mère, elle m'a raconté un peu l'histoire qu'elle a vécue avec la femme avec qui elle a eu ce désir d'enfant, qui est aussi la femme qui a rendu possible ce projet. Et cette femme connaît la bonne personne. Un monsieur qui était très très bien placé pour pouvoir écouter ce projet et le mener à bien jusqu'au bout. Première insémination, bim, enceinte. Et donc j'imagine que l'homme qui a fait l'insémination à ma mère a probablement pas pu faire disparaître des paillettes de sperme de la banque. Mais aurait-il pas demandé à des gens autour de lui, peut-être des laborantins qui travaillaient avec lui ou des amis, je ne sais pas. Et pourquoi pas, est-ce qu'il lui aurait pas mis du sien d'ailleurs? Moi, à un moment, je m'étais même imaginé qu'il avait pu faire un gros milkshake avec plein de sperme de plein de gens différents.
C'est possible.
Ah ouais, tu crois?
Ouais, c'est possible.
Ah ben voilà, bah, si ça se trouve, il a fait ça. Peut-être. Donc, il a demandé à ce qu'on ne lui demande jamais qui c'était. Mais pour moi, c'est le géniteur et pour moi, c'est lui. Parce que c'est lui qui est derrière toute cette histoire. En tout cas, c'est son geste à lui. Petite, moi j'ai été dans l'école de mon village, donc c'était compliqué parce qu'à cette époque j'avais pas trop de copains et de copines. Il y avait des trucs un peu dans la cour, genre tu sais, on se touchait, et il y avait un garçon qui était très très disgracieux dans la classe. Et lui et moi, quand les autres nous frôlaient ou nous touchaient, après ils se touchaient tous les uns les autres en disant t'as la gale, il fallait se repasser la gale. Donc lui et moi on était les brebis galeuses, très clairement, de la classe.
Mais tu répondais quoi quand on mettait profession du père sur la petite fiche
Bah je raillais, le père, je raillais. Je me souviens par exemple quand à l'école primaire on fait les cadeaux de fête des pères, bah je faisais un cadeau que j'offrais à ma deuxième maman. Bon j'étais pas dupe que c'était pas un père, mais du coup bah c'était son moment à elle. En tout cas, je crois que moi, il y avait de l'amour à la maison, que tout ça allait très bien, mais que un jour, j'ai entendu parler des homosexuels, mais que je n'avais encore jamais associé ce que je vivais à la maison avec ce mot dont j'entendais parler de manière négative. Et un jour, quand j'ai rejoint ce que je vivais avec toutes ces choses négatives qu'on faisait sur l'homosexualité, je crois que j'ai eu un petit moment de honte. J'ai le souvenir d'une fois en particulier où en revenant, on était allé à la ville voir un film, et en revenant un soir, mes mamans n'étaient pas hyper démonstratives dans l'espace public, mais là c'était en ville, tard le soir, elles se sont peut-être esquissées un geste, tu vois, en se tenant par l'épaule ou par la main ou quoi. Et je me souviens très très bien de ce jour où je me suis la nuit éloignée d'un mètre pour marcher à un mètre d'elle, pour surtout pas que si on nous voit, on pense que j'avais à voir avec ces deux femmes. En tout cas, je sais que c'est reparti extrêmement vite et que j'en ai très vite absolument strictement rien à carrer. Donc ça a été simple longtemps et puis c'est devenu compliqué quand j'ai commencé vraiment à me poser les questions. En tout cas, j'étais aimée. Mon histoire, elle était un peu secrète, mais que c'était quand même un peu la classe au cul, quoi, comme histoire, quand même. Et tout ça allait très bien comme ça. En fait, pendant longtemps, je pensais que j'avais tellement de mamans que il n'y avait aucune raison qu'un père manque, en fait. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, j'aurais aimé qu'un homme, le géniteur, du coup, peut-être lui, qu'est-ce que j'aurais aimé que cet homme un jour me prenne dans mes bras et me dise « je t'aime ». En tout cas, ma mère, quand j'avais à peu près un an, s'est séparée de la femme avec laquelle elle a eu ce projet. Et pour mes 30 ans, la femme s'est manifestée. Et puis j'ai accepté de la rencontrer. J'avoue que ça m'a un petit peu coûté, mais en fait c'est un peu compliqué ce sujet pour moi, encore aujourd'hui. Parce que je sens qu'en fait j'ai de la culpabilité par rapport à cette femme. Parce qu'en fait je pense que cette femme... la version de ma mère, c'est un peu elle a disparu dans la nature, et cette femme m'a donné une toute autre version quand on s'est rencontrés, qui m'a dit ta mère m'a un peu fichu dehors quoi. Et je pense que la vérité, elle est vraiment au croisement de ces deux histoires. Et alors moi j'ai de la culpabilité parce qu'elle a pensé que j'allais revenir dans sa vie en fait. Et elle me disait à très juste titre, mais toi t'es ma fille, tu seras toujours ma fille. Et en fait moi J'étais peut-être sa fille, mais elle n'était pas ma mère, quoi. En tout cas, mon histoire fait, avec ses manques et ses dodanes et tout ça, que je me suis construite en guerrière un peu, de ma propre histoire. Et en même temps, tout s'est écroulé autour de mes 30 ans, tout s'est effondré. Enfin, j'ai lâché ma guerrière, quoi. Je venais d'avoir un enfant, donc la maternité est en soi aussi, d'une certaine façon, la chose la plus merveilleuse du monde et un gros merdier. J'ai complètement lâché ma guerrière. Je crois que j'ai jamais été aussi fragile que ces quelques années autour de la naissance de ma fille. D'ailleurs, j'ai jamais autant pleuré pendant 9 mois, alors que, je veux dire, j'étais cet enfant, je l'ai désiré et j'étais la plus heureuse du monde, mais je ne faisais que chialer. Et là, tout à coup, je devenais maman et ma fille, elle, avait un papa. J'étais très angoissée par la place que j'allais pouvoir lui faire à lui. Je me suis même demandé si j'avais pas jalousé ma fille, que je lui ai donné un père et que moi-même n'en ayant pas eu. Et c'est lui, d'ailleurs, qui m'a un peu ramassé la petite cuillère, enfin, qui était là. De toute façon, c'était lui à ce moment-là dans l'histoire, donc voilà. Après, il y a eu la séparation avec le père de ma fille. En fait, je pense que j'avais recommencé ma reconstruction un peu avant ça et que... Le pauvre m'a secouru à des moments un peu difficiles et qu'ensuite, j'étais redevenue guerrière et ben, je suis partie, quoi. Pour moi, l'amour n'est absolument pas sexué. L'amour sexuel, certes, mais pas genré. Voilà, c'est ça. Toutes ces questions-là m'intéressaient beaucoup. Justement, les questions des amours différents, ça m'a toujours intéressée. Je me suis toujours dit que je pourrais aimer une femme comme j'aime un homme. Mais ça, d'une certaine façon, c'était presque un fondamental pour moi, un principe. Je me rendais bien compte que j'aimais plutôt les hommes. Et bon, ça s'installait, quoi, ça changeait pas. Donc j'étais limite en train de me dire que c'était un principe, mais que si ça se trouve, ça ne m'arrivera jamais d'aimer une femme. Jusqu'à ce que ça m'arrive. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis très très amoureuse d'une femme, qui n'est donc pas la première, et en gros, depuis que j'ai été amoureuse d'une femme, je n'ai plus été amoureuse d'homme, et je ne les désire plus, je dis pas que ça n'arrivera plus jamais, mais on n'a plus grand chose à se dire de ce côté-là que les hommes. En fait, je crois que le problème de mon histoire aujourd'hui, dans le fait que j'aime une femme aujourd'hui très très fort, donne du grain à moudre à la pensée réac, quoi. Je me souviens d'un de mes premiers petits copains que j'ai largué le jour où il m'a dit « Mais tu sais, t'as pas peur que ce soit héréditaire, il paraît que c'est un peu héréditaire. » Et en fait, aujourd'hui, je repense à lui, ça me fait sourire, parce que je me dis juste « C'est pas une histoire d'hérédité, c'est juste que moi, on m'a appris à aimer comme j'ai envie d'aimer, et que donc aujourd'hui, j'aime aussi les femmes. » Mais n'empêche que, d'un point de vue extérieur, mon histoire, elle peut donner du grain à moudre à des débiles, quoi. Donc, il faut continuer à se battre chacun. Moi, toi, avec ton histoire à toi, qui est complètement incroyable aussi, il faut rester en vigilance tout le temps, quoi.
En fait, le problème que soulève Émilie, c'est surtout la répétition. Comment se reproduire sans reproduire, justement ? Cette question, j'imagine que tout le monde se la pose, mais elle est plus chargée de culpabilité pour des gens comme Émilie et moi. On se dit tout de suite, qu'est-ce qu'on va devenir si les filles de lesbiennes créent des lesbiennes et si les enfants d'orphelins naissent orphelins? J'ai essayé de creuser la question avec Lou, la fille d'Émilie.
Est-ce que tu sais pourquoi j'ai posé des questions à Émilie?
À peu près, parce qu'elle a deux mamans.
Tu l'as toujours su qu'elle avait deux mamans?
Ouais.
Et tu les appelles comment?
Mamie et Marie. Mamie, c'est la vraie maman, et puis Marie, c'est la deuxième maman, quoi.
Et c'est quoi la différence entre la vraie maman et la deuxième maman?
C'est que je les appelle pas pareil.
Mais pourquoi tu dis qu'il y en a une, c'est la vraie maman?
Bah, parce que elle a eu maman dans le ventre, quoi.
Ah, c'est ça qui fait la différence.
J'ai 3 mamies.
Ouais.
Et 1 papy. Il y en a qui disent que c'est dégoûtant. C'est une copine, je lui ai dit ça, elle a dit, tu sais qu'il y a des garçons, ils disent à l'école que c'est dégoûtant et que ça se peut pas, quoi.
C'est bizarre ça comme phrase, ça se peut pas puisque ça existe, c'est que ça se peut, non?
Ils y connaissent rien, les garçons. Quoi, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu dis quand on te demande qui sont tes parents, est-ce qu'ils sont ensemble?
Bah, je réponds non, ils sont pas ensemble parce que ma maman elle a trouvé une amoureuse et voilà.
D'accord.
Je réponds pas d'autre chose. Après, s'ils me posent des questions, je m'en fiche complètement. C'est mes copines qui m'en posent parce qu'elles savent pas ce que ça fait d'avoir de maman.
Ma rencontre avec Émilie et Lou a fini de me convaincre qu'on peut être très heureux d'avoir grandi différemment. Et j'étais prête à me lancer dans la fécondation in vitro. Mais ça, c'était avant de découvrir le business de la procréation.
Velkommen til Copenhagen Fertility Center i Danmark. Copenhagen Fertility Center er ikke bare en fertilitetsklinik. Vi var med til at starte den avancerede fertilitetsbehandling i Skandinavien.
Je pensais qu'en faisant une fécondation in vitro, alors que la loi me l'interdit, j'allais devenir une réfractaire, une pirate de la reproduction assistée. Mais les lois européennes permettent de faire dans les pays voisins ce qui est interdit chez nous. Et pourvu qu'on en ait les moyens, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. En Belgique, par exemple, un couple de femmes peut faire une fécondation in vitro, y compris dans un hôpital public. Au Danemark, on a le droit de choisir un donneur de sperme qui ne reste pas anonyme. Et en payant un peu plus cher, on peut sélectionner son donneur en fonction de son physique, le son de sa voix, son niveau d'études et son quotient intellectuel. En Grèce, en Espagne et à Chypre, les femmes peuvent bénéficier très facilement de dons d'ovules. Je pensais être une hors-la-loi, je ne suis qu'une vulgaire consommatrice.
Cryos can help make your dreams come true.
Allô?
Allô?
Bonjour, vous parlez français?
Oui.
Je vous appelle car je vis en France. Je suis célibataire en fait et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
Est-ce que vous pouvez un petit peu me dire votre histoire? Vous avez quel âge? Est-ce que vous avez déjà essayé? Vous êtes déjà tombé enceinte?
J'ai 43 ans et par le passé, non, j'ai jamais eu de grossesse, mais en général, j'ai toujours eu des rapports protégés.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait vos tests de fertilité?
Oui, alors j'ai fait un test d'hormonologie, c'est ça?
Oui.
Mm-hmm. Je crois que ça va. Vous voulez que je vous donne des chiffres?
AMH, par exemple?
1,57.
Ok. Est-ce que vous avez un bon gynécologue qui serait prêt à vous aider?
Oui.
D'accord. C'est ça, parce qu'on peut commencer le traitement à distance. Je peux vous envoyer vos ordonnances par email. Vous pouvez commencer donc la stimulation ovarienne au moins la première semaine chez vous et venir ici pour la ponction ovarienne. On va faire la fécondation avec un donneur de sperme. Donc nous, on amène du sperme de la banque Cryo. Vous allez choisir un donneur qui vous convient. On va faire donc la fécondation ICSI, donc c'est-à-dire on injecte directement le sperme au milieu des ovocytes au troisième jour ou au cinquième jour. Donc vous transférez vos embryons. Le lendemain, vous pouvez partir chez vous.
Vous êtes situé où exactement?
Alors, on est à Chypre Nord, dans la ville de Kyrenia. Si vous choisissez un de nos hôtels partenaires, je peux faire la réservation pour vous. Je peux aussi vous organiser le taxi. Donc, il suffit d'aller à l'aéroport. Vous trouvez notre chauffeur et on s'occupe de tout.
D'accord.
Est-ce que vous avez WhatsApp ou Viber?
Ouais, j'ai WhatsApp.
D'accord. Si vous me donnez votre numéro de téléphone, maintenant, je vais vous envoyer un petit message. Si moi je vous envoie mon email, vous m'envoyez le vôtre, et comme ça vous pouvez m'envoyer tout ce que vous avez fait en fait, en monologie surtout.
D'accord.
Ben, je vais vous envoyer un petit message maintenant. Attends.
D'accord, et je vous tiens au courant.
D'accord, super.
Au revoir.
Pas tout à fait convaincue par l'idée de faire un enfant via WhatsApp, j'ai orienté mes recherches vers le Danemark et l'Espagne. Ce sont deux pays où on ne vous propose pas de choisir le sexe de votre enfant, mais où, au moins, on peut parler avec une vraie gynécologue. Et là, je dois avouer que mes préjugés ont parlé. Si j'achetais une voiture, je choisirais une Volvo plutôt qu'une Seat. Eh bien, pour la FIV, c'est pareil. Je suis persuadée qu'une clinique scandinave sera plus fiable et plus hygiénique qu'une clinique espagnole. Je suis donc allée voir Lisa, qui a fait plusieurs tentatives au Danemark.
Non, écoute, moi, j'avais payé un package. Quand la première n'a pas marché, je me suis dit, je vais me faire un pack 3 FIV parce que, tu vois.
D'accord.
Quand ils m'ont fait le package, j'ai une feuille, effectivement, qui prouve que j'ai payé un package avec le prix des trois fibres. Et c'est écrit en danois. Et là, tu fais, putain, ils sont vraiment gonflés.
Pourquoi t'as pas exigé le même document?
Ah, bah j'ai demandé, hein, mais ils m'ont dit, vous savez, normalement, vous devriez pas avoir droit au package trois fibres. Je dis, mais comment ça? C'était la dernière fois, là, c'était il y a un mois, où j'ai payé la congélation de l'embryon.
Oui.
Et j'ai payé la décongélation de l'embryon. Là, tu fais, ils sont vrais. Et là, moi, tu vois, voilà, ça, pour moi, c'est typique. Je me suis dit, putain, ils sont quand même super gonflés. Comme ils ne préviennent pas, enfin, tu vois, moi, je suis arrivée là-bas, ils te sortent la facture directe. Tu vois, tu sais pas tout ça. En fait, il y a beaucoup de flou, si tu veux, au Danemark.
Autant vous dire que le pack 3 FIV m'a fait perdre toutes mes illusions sur la fiabilité des Scandinaves. Et puis après tout, mon utérus, c'est pas une voiture. C'est décidé, je me lance dans une fécondation in vitro et j'irai la faire en Espagne. Et pour ceux que ça inquiète, quand j'ai dit à ma mère que c'était moi qui voulais faire un enfant à 43 ans, elle était tellement contente qu'elle en a oublié que c'était égoïste. All of the thoughts we thought would stay unsaid have made their way here instead. For Orion, as the days ahead become behind, replace the tape as we rewind. For Orion, tell me all your secrets. PMA hors la loi, épisode 1, Adila Benedjaïzou, Emmanuel Geoffroy et Cécile Lafont. Vous pouvez dès maintenant podcaster la totalité des 6 épisodes de cette histoire sur toutes les bonnes applis de podcast et sur franceculture.fr. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles sur iTunes et éventuellement des gentils commentaires. C'est important pour notre travail. À l'antenne, l'épisode 2 sera diffusé mercredi prochain dans Les Pieds sur Terre à 13h30. Merci à Ricarda, à l'association Yoga Vision, à Attica, à Émilie, à Lou et à Lisa. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire. Think of what we're missing.